Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Alain Delage aux éditions de Boré, Terre d'écriture. Alain Delage qui a écrit ce dernier roman, L'étreinte de la bise. Eh bien, on va le retrouver dans quelques instants. And he shows them a pearly white, just a jackknife as Mac Heat did, and he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mac Heat dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing life. Someone sneaking. Voilà, bien comme promis, aujourd'hui notre invité du jeudi sera Alain Delage, donc qui a écrit un dernier roman, L'étreinte de la bise, aux éditions de Boré. Alain, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Alain, vous n'êtes pas votre premier roman, hein, parce que vous en avez écrit pas mal quand même. Mais on va d'abord situer un petit peu le personnage. Alors, vous êtes né dans l'Hérault.
Oui, tout à fait.
Et, et actuellement, vous vivez?
Alors, je vis dans le Gard, près de Nîmes. Alors, je vis ici depuis maintenant 39 ans, en fait. Ce sont mes obligations professionnelles qui m'ont amené à venir dans le Gard. Et puis, je me suis installé, je suis très bien. Et donc, il n'y a pas de problème, moi, je suis très bien.
Vous faisiez quoi, vous, comme profession?
Alors là, je suis retraité, mais j'ai passé 20 ans dans la Marine nationale, en fait, dans l'aéronautique navale.
D'accord.
Ensuite, j'ai passé 20 ans dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire en préfecture. Et donc, j'ai terminé ma... Alors, c'est justement l'armée qui m'a amené sur Nîmes. Et puis après, donc, j'ai été affecté donc, à la préfecture de Nîmes. Et je suis à la retraite depuis maintenant quasiment 4 ans, voilà.
Mais c'était Nîmes-Garon à l'époque?
Nîmes-Garon, exactement. J'étais affecté à Nîmes-Garon pendant des années. J'ai fait 2-3 affectations sur la base. Ensuite, entre-temps, j'ai été muté à Paris pendant 3 ans. Et je suis revenu sur Nîmes. Donc, j'ai terminé en 1994. Alors, en 1994, j'ai quitté l'armée. Je suis rentré dans la préfectorale où j'ai été affecté en Seine-Maritime, à Rouen, à la préfecture. Et après, en 1997, donc, je suis revenu sur mes terres méridionales gardoises. Voilà.
D'accord. Oui, puisque moi, j'ai fait mon service dans la marine, hein, et j'étais à Fréjus, donc aussi dans l'aéronaval, et je sais qu'il y avait une place à Nîmes-Garon, mais j'avais préféré Fréjus, parce qu'on m'avait dit qu'à Nîmes...
C'est très sympathique, Fréjus, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, mais j'ai fait très peu d'armée par rapport à vous, hein, bien sûr.
Ah non, c'est pas pareil, moi, c'est différent. C'est ma profession, voilà. J'étais mécanicien navigant sur les avions.
Ah ouais, mais c'était l'aéronaval, oui, bien sûr.
Tout à fait, oui.
À l'époque, nous aussi, on en avait un petit peu des avions là, qui allaient sur l'Orient, qui montaient souvent.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler de la marine, même si c'est très intéressant.
J'ai pas fait de roman encore sur
ça. Ça viendra peut-être, ça viendra.
Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Rien n'est impossible.
Voilà, alors vous avez écrit pas mal de romans déjà, hein, je regardais un peu. C'est vrai que vous en êtes à votre combien là?
Alors celui-ci, alors en fait celui-ci, là, ce livre, ce roman, c'est mon 22e livre, mais c'est mon 11e roman, voilà.
D'accord.
J'ai fait d'autres livres historiques un petit peu sur le Gard à valeur patrimoniale en fait,
oui.
Mais celui-là, donc, c'est mon 11e roman, voilà.
Oui, parce que vous avez fait donc Les secrets de Fontvive.
Alors, le tout premier, oui.
Alors Fontvive, je ne sais pas si ça a un rapport avec au-dessus de Toulon, il y a Fontvive.
Non, du tout, du tout.
Du tout.
C'est un nom que j'ai imaginé,
d'accord.
Que j'ai fixé du côté de l'Ariège, là-bas, voilà, vers Pamiers.
Et là, vous avez donc eu le prix du salon Bagnols-sur-Cèze.
Tout à fait, oui, oui.
C'est un des premiers prix, parce qu'on verra que vous avez été distingué aussi. Il y a eu ensuite L'inconnu de la Sainte-Blaise.
Oui, tout à fait.
Alors, en deux mots, l'histoire, parce que, ouais, de la Sainte-Blaise,
alors,
oui.
L'inconnu de la Sainte-Blaise.
Oui.
Oui, alors Écologie de la Sainte Blaise, c'est un livre que j'ai imaginé sur le Mont-Aigoual, en fait, au pied du Mont-Aigoual. Là-bas, il y a chaque année un petit village qui s'appelle Trèves, et chaque année, il y a pour le carnaval un personnage carnavalesque, en fait, que l'on sort, qu'on appelle le pétassou.
Alors,
le
ah pétassou, oui, d'accord, j'ai entendu parler de ça.
Avec les pétasses de tissu. Et puis voilà, puis j'ai imaginé que ce brave pétassou, il était assassiné, et puis que il fallait trouver qui, en fait, avait assassiné ce brave pétassou. Voilà, et il y a toute une intrigue autour de ce personnage. Voilà.
Alors, il y a eu l'étrangère de Collonges aussi, après.
Voilà, alors celui-ci, par contre, je me suis rapproché vers chez vous, puisque mon épouse est originaire de Saint-Just-Saint-Rambert, en fait, dans la Loire. Voilà, et donc là, j'ai sorti dans l'étrangère de Collonges, qui a été mon premier roman sur le forêt, et qui a été suivi 2 ans après par Les Rubans de la Vengeance, est la suite, en fait, de ce premier roman forésien. Voilà.
Et entre-temps, il y a eu L'Ombre de la Garrigue.
Alors, L'Ombre de la Garrigue, voilà, je suis revenu chez moi. En fait, c'était une histoire dans la Garrigue, au nord de Nîmes, en fait, qui a un petit peu une connotation un petit peu plus historique et qui met en avant un petit peu les désertions, j'allais dire, pendant la Première Guerre mondiale. Voilà.
D'accord.
Voilà, c'est toute une histoire autour d'une personne qui... en fait, cette personne, elle est déclarée morte pour la France, en fait, un soldat qui est déclaré mort pour la France. On a inscrit son nom sur le monument aux morts, mais heureusement plutôt, quelques semaines plus tard, il réapparaît.
D'accord.
Alors, le problème, pour quelle raison il réapparaît ? Il réapparaît alors qu'il a été déclaré mort pour la France. Voilà.
Très bien. Et il y a eu L'Enfant des Murmures ?
Oui, alors celui-ci, pareil, ça se passe dans la plaine languedocienne, en fait. C'est un prêtre d'une trentaine d'années qui est muté, en fait, de Montpellier dans un petit village au pied des Cévennes. Et il rejoint là-bas, en fait, la vieille servante de l'ancien curé qui est décédé, en fait. Et toute l'intrigue tourne autour du fait est-ce qu'il y a un rapport entre cette mutation, est-ce que cette mutation-là, elle est, bête comme ça, je veux dire, tout simplement comme ça, ou est-ce qu'elle a été vraiment... comment dire, en fait, est-ce qu'on a voulu voir cette mutation,
voilà. Oui.
Est-ce que c'est le hasard qui a amené ce prêtre dans ce village?
D'accord.
Ou est-ce que ça a été commandité par autre chose? Voilà, donc il y a toute une histoire autour de ce prêtre. Voilà.
Puis alors, le prochain, bon, là vous êtes rapproché de chez vous, déjà avec l'accent que vous avez, on les entend presque, les cigales, hein, le dernier chant des cigales.
Alors voilà, le dernier, alors, celui-là par contre c'est dans le Var. C'est un livre que j'ai fait parce qu'en fait, on s'était promené avec mon épouse du côté de Draguignan et j'avais découvert le camp militaire de Canjuers.
Avec Canjuers.
Et là, j'ai découvert qu'il y avait une histoire d'un village, en fait, au moment où on a créé le camp militaire de Canjuers, on a exproprié tout un village, en fait. Voilà. Et tout ce village, c'est vrai, il s'appelle Brouès. La commune dont a été rattachée à la commune d'à côté, et le village a été vidé de ses habitants. Et donc j'ai imaginé toute une histoire. Le maire, on lui apprend au maire que tout le monde va être exproprié, et c'est lui qui va expliquer aux gens du village ce qui va leur arriver. Et le problème, c'est que ça va raviver des querelles villageoises, des intrigues entre familles, des choses comme ça, et ça va mettre un petit peu le bazar dans le village en question avant qu'il soit évacué. Voilà.
Canjuers, c'était l'infanterie de marine, non ?
Je crois, il me semble, oui, tout à fait. Oui,
ouais, il me semblait que c'était comme ça. La nuit des vendanges.
Alors, la nuit des vendanges, là, c'est pas pareil. Je suis revenu parce que moi, alors, hormis bon, le précédent, le dernier chant des cigales qui se passait dans les années 50, moi, tous mes romans se passent en général à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Voilà.
Mmh.
Et là, j'ai voulu faire un roman un peu différent, bon, avec la nuit des vendanges, puisque j'ai imaginé de nos jours, en fait, dans un village, il y a donc une Espagnole, une Carmen, une Espagnole qui vient habiter dans le village. Elle s'amourache d'un viticulteur du village, et le viticulteur lui dit que dans le village, ils sont tous cousins, plus ou moins. Et donc, elle va se lancer dans la généalogie du village pour voir comment ils sont cousins entre eux. Sauf qu'elle va le faire avec des moyens actuels.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle va chercher différemment, voilà, pour savoir réellement les liens qu'il y a entre certaines personnes, les familles, tout ça. Et là aussi, il y a une chose qui réapparaît comme dans L'Enfant des Murmures, c'est est-ce qu'elle est là intentionnellement, cette brave dame, et ou alors est-ce qu'elle est arrivée là vraiment au hasard dans ce village, voilà. Toute l'intrigue tourne autour de ça et de la généalogie, voilà.
Alors après, il y a le Banni des Hautes Terres, on se rapproche, là.
Voilà, alors le Banni des Hautes Terres, celui-ci, alors c'est le premier livre qui a un rapport avec le livre qui est sorti dans le dernier, Les Craintes de la Bise, le Banni des Hautes Terres, en fait, il se passe sur le plateau de l'Aubrac. En fait, ça démarre toujours dans la garrigue donc, vers chez moi, dans la garrigue languedocienne, mais dont un jeune passe son conseil de révision. Bon, il s'appelle Armand, c'est mon héros. Et Armand, en fait, lorsqu'il rentre donc, chez lui, il est accusé de meurtre qu'il n'a pas commis. Or, le problème qu'il y a, c'est que bon, tout porte à croire que c'est lui qui a commis ce meurtre. Et sa famille lui dit, bah, écoute, plutôt que de rester là à attendre de te faire arrêter, l'idéal, monte sur l'Aubrac, c'est le pays de ton père. Ton père est parti de l'Aubrac il y a bien des années. Monte là-haut parce que tu as un grand-oncle qui habite toujours là-haut. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur l'Aubrac, parce que comme on dit, l'Aubrac c'est tellement rasé qu'on voit arriver les ennemis de loin.
Oui.
Donc lui, il monte là-haut sur l'Aubrac, il va faire une saison en estive, en fait, comme bureaunier, donc dans les bureaux, pour traire les vaches et faire le fromage. Et après, bon, là, l'intrigue aussi, pareil, il va découvrir, en fait, le passé de son père.
D'accord. Voilà.
Le temps qu'il soit là-dessus. Voilà. Toute l'intrigue tourne autour de ça, mais aussi sur la vie des bureauniers. Donc j'ai voulu mettre en avant cette vie des bureauniers qui est quand même assez extraordinaire. Et le roman donc, est sorti donc, au mois de juin, donc, L'étreinte de la bise, le dernier roman. C'est une suite, en fait, il se lit indépendamment, mais c'est une suite.
D'accord.
Du Banni de Haute-Terre. Voilà.
Alors l'Étoile de la Providence, ça a été autre chose?
Alors l'Étoile de la Providence, celui-là, donc c'est un petit peu différent comme roman. J'ai imaginé en fait qu'il se passe à Saint-Hippolyte-du-Fort, en fait c'est un village qui est au pied des Cévennes, dans le Gard. Et en fait, dans les années 1912, il y avait dans cette commune une école militaire préparatoire pour les ce qu'on appelait à l'époque les enfants de troupe, en fait. Donc il y avait une école militaire, mais également dans la même année, il y a le notaire du village qui avait imaginé des grands meetings aériens avec les avions de l'époque, des Blériot, des choses comme ça. Et donc tout tourne autour d'un personnage, c'est-à-dire c'est mon personnage principal, donc il s'appelle Florian. Il est né à Blida, en Algérie, son père est militaire là-bas, sa mère décède malheureusement quand il est jeune, et son père veut se débarrasser de ce gosse. Donc il l'envoie dans l'école militaire préparatoire de Saint-Hippolyte-du-Fort, et ce jeune, en fait, il va découvrir l'aviation lors de ces fameux meetings. Et en fait, il a une douzaine d'années, et il va se prendre en main tout seul. Il dit, bon, dans la mesure où mon père ne veut plus de moi, je suis abandonné, donc il se prend en main tout seul, voilà. Voilà,
d'accord.
Voilà, donc c'est une autre histoire complètement différente, voilà.
Donc on va arriver tout doucement à l'étreinte de la bise, mais juste avant, c'est vrai que vous avez été élevé au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, bah c'est quand même une belle distinction.
Oui, tout à fait, oui, ça m'a été accordé, parce que, bon, par rapport à tout ce que j'avais fait au niveau des livres patrimoniaux, en fait, et historiques dans le Gard, et donc, bonjour, j'ai eu le grand plaisir de recevoir un courrier avec un diplôme du ministère de la Culture qui m'ont octroyé nos sables, et ça avait été demandé donc, par des personnes, dont ici, gardoise, voilà.
Alors, l'étreinte de la bise, alors vous avez parlé tout à l'heure de Armand Ligourel, alors il s'appelle Armand Ligourel, donc c'est la suite un peu de l'autre roman, Les Hautes Terres, hein, c'est ça?
Oui, et, oui, tout à fait, et on revient.
Ouais.
En fait, si vous voulez, au moment du Banni des Hautes Terres, à la fin, Armand, en fait, il part faire son service militaire.
Ouais.
Pendant 3 ans, puisqu'à l'époque ça durait 3 ans.
Mmh.
Et là, dans l'étreinte de la bise, eh bien, il revient donc, chez lui, sauf que la situation a un petit peu changé. Voilà. Quand il arrive dans la ferme où habitent normalement ses grands-parents, sa mère et sa sœur, eh ben, ils sont plus là. Ben, ils ne sont plus là, et il ne sait pas où ils sont. Et là, il apprend donc que le propriétaire, en fait, des lieux, donc qui est un nouveau riche, en fait, qui a réussi à faire de l'argent grâce à la viticulture au début du XXe siècle. Et donc, ce monsieur-là les a foutus dehors et les a remisés dans une autre maison, comme ça, voilà.
Oui.
Sauf qu'entre-temps, Armand donc, reçoit un courrier du notaire en fait de Nasbinal en Lozère qui lui dit simplement qu'il devient lui et sa sœur l'héritier d'un grand-oncle qui habitait dans Lozère et donc il hérite de la maison et de tout ce qu'il avait là-haut. Donc lui se dit dans la mesure où ben, on n'a plus rien à faire ici et puis ma famille est exclue, on va partir là-haut, voilà. Et donc il y a des péripéties là aussi, mais il embarque sa famille là-haut, donc, et il va prendre possession donc de ce bien, donc lui a donné lui a légué son grand-oncle, sauf qu'il apprend une chose un peu inhabituelle, c'est que les biens en question, au départ, le grand-oncle les avait légués à sa servante. Or, la servante a disparu. La justice ayant reconnu que la disparition était très importante, la justice l'a déclaré décédé. Mais Armand découvre quête de la vérité et de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison et comment ça s'est passé. Voilà.
Alors bon, vous avez situé votre roman début des années 1900, hein, 1893.
Enfin, 1893, exactement. Ouais, c'est ouais, c'est ça, ouais. 19e siècle.
Donc Armand, alors, on voit que c'est un peu... on peut dire que c'est un peu un roman policier quand même, hein, parce que...
Ah, il y a une intrigue, oui.
Il y a une grande intrigue, là, parce que donc Armand, tout au long de ce livre, va vouloir savoir, hein, parce que pourquoi la servante a disparu. On a dit qu'elle était décédée, mais est-ce qu'elle est bien décédée? Lui, pour lui, il veut savoir, quoi, parce que pourquoi
il veut savoir pour quelle raison, parce que c'est pas le tout de dire que la personne est décédée, dans la mesure où on n'a pas retrouvé son corps, on n'a rien retrouvé. Donc pour lui, il se dit, il y a quelque chose qui est pas clair, voilà, et il découvre, je vous dis, des indices dans la maison qui portent à croire qu'il s'est passé quelque chose avant la disparition de la servante en question, voilà. Donc est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce que, voilà. Dans son travail, c'est ça. Ouais. Donc, il y a une intrigue, effectivement, un peu policière, effectivement.
Ouais, c'est la trame de votre ouvrage, en fait. Hein.
Tout à fait.
Cet Armand va sûrement se heurter à pas mal de... On sait que c'est très secret, hein, tout ce qui est dans cette région-là. Et pour lui, ça va être difficile, parce qu'en fait, il a hérité parce que la servante avait disparu, mais si la servante n'avait pas disparu, il n'aurait jamais hérité.
Exactement, tout à fait. Cette disparition qui est au centre, en fait, du roman par lui-même. Voilà. Cette disparition qui est inexpliquée d'une certaine manière. Alors, il faut savoir maintenant qu'à l'époque, beaucoup de gens disparaissaient pendant l'hiver sur l'Aubrac, parce que l'Aubrac est une terre en hiver qui est très ingrate, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de gens disparaissaient, on retrouvait les corps, des fois au printemps, quand la neige disparaissait, des gens qui se perdaient, qui mouraient de froid, en fait, et puis on retrouvait le corps au printemps, sauf que là, on n'a rien retrouvé.
D'accord. Voilà. Voilà. Oui, donc le mystère reste complet.
Le mystère reste complet. Alors maintenant, elle peut tomber dans un gouffre et on ne la trouvera jamais. Voilà, le mystère est complet, voilà.
Alors, lui, ce qui l'inquiète peut-être, c'est que, bon, il a hérité, mais si, par un miracle, Jeanne revenait, ça pourrait poser quelques problèmes, non?
Ah ben, il perd tout.
Et il perd tout, voilà, oui.
Ah oui, c'est ça le problème, c'est que si Jeanne vient à réapparaître... Eh bien, il va y avoir un problème, c'est que on sera obligé de reconnaître qu'en fait, la justice s'est trompée en la déclarant décédée, donc elle sera obligée de la réhabiliter, et en la réhabilitant, tout ce qui était avant, donc, c'est-à-dire la donation, en fait, la donation qu'avait fait, donc, le grand-oncle d'Armand, donc, à sa servante, revient. Voilà.
Et alors bon, non, on ne peut pas imaginer, parce que lui, en fait, il ne savait pas tout ça avant d'hériter, parce qu'on pourrait le soupçonner d'avoir fait disparaître la servante pour hériter.
Ah mais complètement, on peut imaginer qu'effectivement ça, mais il ne le savait pas.
Oui.
Ouais, il ne savait pas l'existence de cette servante. Voilà, donc pour lui, il est vraiment hors de cause, voilà, il est hors de cause. Voilà.
Bien sûr.
Par contre, il y a beaucoup de gens autour de lui qui peuvent... être impliqué dans cette affaire, voilà. Et c'est ce qu'il va chercher, savoir qui a eu intérêt en fait à ce qu'elle disparaisse, voilà. Et donc tout tourne autour de ça.
Oui, tout est lié. Donc il va mener sa propre enquête. Alors peut-être que les langues vont se délier, il faut dire.
Ah ben à un moment ça va se délier, c'est sûr. Il va découvrir des choses, il va mettre des personnes devant des situations assez ambiguës, je veux dire, voilà, leur prouver qu'ils ont des situations ambiguës, et là, évidemment, à un moment, ça va commencer un petit peu à se délier, et voilà, et puis là, il a une intuition, Armand, il est assez intuitif, voilà, il arrive à déduire des choses qui sont logiques, d'une certaine manière, et ça va l'aider beaucoup, oui.
Oui, alors bon, l'étreinte de la bise, Alain Delage. Alors, l'étreinte de la bise, parce qu'on sait que sur le Brac, et nous ici, on appelle ça la burle, mais je ne sais pas, c'est un peu pareil.
Oui, ben, tout à fait, oui, vous, c'est la burle, effectivement. voilà, non, là-bas, c'est la bise. Voilà, la bise, c'est un vent qui est très froid. Et surtout, les cires. Alors, les cires, c'est un nom de vent aussi, mais celui-là, c'est celui qui amène la neige, en fait, là-haut, sur le Brac. Voilà. Mais j'ai voulu l'étreinte de la bise, parce que les cires, les gens n'auraient peut-être pas compris, les lecteurs n'auraient pas compris l'allusion. Là, l'étreinte de la bise, ça montre ce côté, puisque ça se passe en hiver, en fait, totalement dans l'hiver. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu ce titre un petit peu imagé par rapport au vent, voilà.
Oui, alors, votre première page, on voit, hein, c'est totalement désertique, avec juste une croix au milieu
C'est vrai que le Brac est un endroit qui est désertique, mais qui empruntent de beaucoup de choses. Moi, personnellement, c'est un lieu qui m'attire profondément. Même que ce soit désertique, que ce soit rasé, il y a une certaine spiritualité dans ces paysages, en fait, voilà. Et là, bon, j'aime beaucoup le Vrac. C'est pour ça que je m'y suis... j'ai appris beaucoup de choses, d'ailleurs, en écrivant le Banni des Hautes Terres et l'Étreinte de la Bise. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le Vrac qui ne me fait que conforter un petit peu ce que je pensais avant, voilà. C'est un pays qui est dur, qui est très difficile, ça c'est vrai, mais c'est un pays qui est magnifique, voilà, qui a vraiment des qualités exceptionnelles.
Oui, ben c'est ce que disent tous les gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. On passe dans l'Aubrac et c'est sûrement un des plus beaux paysages sur le chemin de Saint-Jacques.
Ah, tout à fait. Pour moi, oui, j'imagine, oui, tout à fait. Oui. Je vous dis, il y a une certaine spiritualité dans tout ça, voilà, qui fait que on se sent. Pour moi personnellement, quand je suis devant des paysages comme ça, on se sent à sa place. Je veux dire, d'une certaine manière, on sait qu'on n'est pas supérieur à la nature. Voilà.
Ah
on
oui,
se sent
ça
vraiment
jamais.
À sa place. C'est ça qui me plaît le plus. Voilà.
Oui, donc Armand va se dépêtrer. Alors, vous l'avez situé en hiver, donc c'est encore d'autant moins facile que c'est pas comme maintenant où on passe un coup de chasse-neige et c'est fini. Là, c'est pas tout à fait pareil. On peut rester coincé pendant des jours et des semaines.
Ah ben, à l'époque, ils vivaient en autarcie pendant des semaines, voire des mois. Je veux dire, ouais. Quand il y avait vraiment des hivers très, très, très rigoureux, c'est assez spectaculaire. Voilà. Je n'ai pas vécu sur l'Aubrac pendant l'hiver, mais
oui.
Ça doit être quelque chose.
Oui, tout le monde dit que c'est quand même très, très dur. Hein, des fois, quand il y a même encore des reportages, l'Aubrac, bon, ça s'est amélioré parce que quand même, on a progressé au niveau technique, au niveau plein de choses qu'il n'y avait pas avant, hein, mais il faut se resituer. Il faut se resituer dans cette année 1893 où tout restait à faire. Là, hein.
Ah, tout restait à faire, tout à fait. Il n'y a pas de communication, il n'y avait rien du tout. Quand la neige est tombée, eh ben on l'a gardée comme elle était. Voilà, on dégageait un peu ce qu'on pouvait dégager le mieux qu'on pouvait, mais ce n'était pas évident. Voilà. Ça fait un petit peu comme quand on va du côté vers chez vous, du côté du Mézenc.
Ouais, exact.
Là, pareil, en hiver, les hivers sont quand même assez.
Parfois, c'est un peu chaud. Hein.
Limite de l'Ardèche, la Haute-Loire, tout ça, c'est quand même.
Ah, sur le plateau Ardéchois, oui, bien sûr. Oui.
Tout à fait, le plateau Ardéchois est assez spectaculaire. Aussi, moi, je connais bien du côté de Coucouron.
Oui.
Voilà. Et bien, quand on est à Coucouron, moi, j'ai eu l'occasion là-bas de monter en hiver avec des congères de 6-7 mètres de haut.
Ah oui, c'était impressionnant. Alors maintenant, ça a un petit peu baissé parce que. La météo a changé un peu, il y a moins de neige, tout, mais
tout
c'était quand on pense à Perbeil, hein, quand on est là-haut.
Exactement.
Et c'est vrai que moi j'ai un copain qui s'était fait coincer. La neige, il m'a dit, là je te jure que tu prends peur, hein, car la neige
tourne. Oui, tout à fait, mais c'est trompeur, et c'est impressionnant, ben, c'est très impressionnant. Il y avait une personne, moi, qui m'avait raconté à Coucouron, un monsieur qui est décédé malheureusement il y en a un demi, deux ans, qui me racontait quand il était gamin, une fois il y a eu tellement de neige dans la nuit, ils sont sortis par les fenêtres du premier étage.
Ah oui, mais c'est pas étonnant.
Voilà. Je trouve ça. Moi, le petit méridional dans mon coin, ici, quand on a 5 cm de neige, tout est bloqué.
Oui.
Donc, j'imagine ce que ça peut faire. Voilà. Donc, il faut vraiment être né, je crois, sur ces plateaux pour vraiment comprendre, en tout cas, assimiler cette manière de vivre. Voilà.
Oui, Armand va être confronté à ça aussi, parce qu'en plein hiver, il va être confronté à la météo. Il peut peut-être pas se déplacer comme il veut.
Mais tout à fait. Tout à fait. Lui, c'est un enfant du Sud. Hein.
Ouais, c'est ça, oui.
Voilà, donc il se retrouve, mais par contre, ça va peut-être l'aider aussi, le fait d'avoir la neige.
D'accord.
La neige a la particularité, tant qu'il n'y a pas d'autre chute de neige, de garder les traces, par exemple.
Ah, c'est ça, bien sûr.
Donc ça, c'est intéressant, voilà.
Oui, donc il faudra découvrir ça, hein, dans L'étreinte de la Bise, hein, Alain Delage, aux éditions de Boré. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur ce livre? Il y a beaucoup de personnes qui interviennent, enfin qui sont dans votre roman. Il va rencontrer personnes.
Voilà. Moi, si vous voulez, quand j'écris un roman, j'aime pas trop qu'il y ait beaucoup de personnages, parce
d'accord.
que quand je lis un roman où il y a trop de personnages, à un moment on se perd. Voilà.
D'accord.
Donc, non. Il y a vraiment, il y a Armand, vous avez Armand, il y a le prêtre du village, évidemment, il y a le maire, il y a le voisin d'Armand, le boulanger, le fournier, comme on appelait à l'époque.
Ouais.
Mais ça reste vraiment très peu de personnages. Voilà. Moi, j'aime bien rester sur 2-3 personnages principaux. Ça évite de trop se disperser et des fois de pas trop comprendre la situation. Voilà.
Oui, quand il y en a trop, c'est vrai qu'après on se mélange un petit peu. Donc là, vous avez préféré réduire au maximum, enfin, aux personnages principaux qui étaient dans les villages, c'est-à-dire le curé et le maire, hein, à l'époque, c'était
exactement,
ça. Quoi.
Tout à fait,
et peut-être tout à fait. Un instituteur ou...
On sait... l'instituteur, non. Alors ça va peut-être dans un troisième tome.
Ah, d'accord.
Je suis revenu sur l'Aubrac, là.
Oui.
Parce que moi, j'ai déjà... Bon, le roman plan de l'année prochaine, il est déjà terminé, et je travaille sur celui de l'année d'après. Donc je vais revenir, je vais essayer de revenir sur l'Aubrac, sur un livre qui sera plus axé sur l'école d'autrefois, voilà.
Ah oui, d'accord.
Là, j'y travaille en ce moment, voilà, donc je reviens sur l'Aubrac tranquillement. Donc ça me permet de me rafraîchir un peu avec cette chaleur, donc c'est très bien.
Oui, voilà. Mais je vois que vous écrivez beaucoup, en fait, hein, parce que... C'est vrai que chaque fois, bon, la question sur la fin de l'interview est toujours la même. Hein. Est-ce que vous avez un roman sous le coude? Souvent, il y en a un, et voire deux, comme vous me dites tout.
Tout à fait, voilà. Moi, là, pour l'instant, je vous dis le suivant, donc il est terminé. Enfin, il est terminé, je suis en train de... Je vais laisser un petit peu de côté, parce que enfin, moi, quand j'écris un roman, j'aime bien passer, après, quand il est terminé, passer un mois et demi sans l'ouvrir, et revenir dessus pour le voir avec un œil un petit peu... un œil neuf, en fait, voilà. Pour,
d'accord.
Parce que des fois, il y a des petites choses que... On a l'impression que c'est très bien, et puis en fait, quand on le relit quelques semaines après, on dit, mais c'est pas possible, c'est pas bon, voilà. Donc je vais recommencer la relecture, mais bon, il est terminé, celui-ci. Et entre-temps, donc, je suis reparti sur la documentation et commencé à écrire le suivant. Donc,
et vous l'avez, le titre du celui qui arrive, là, déjà, ou pas?
Alors, le suivant, non, pour l'instant, je dis rien, parce que j'ai un titre, mais qui est un peu provisoire, là.
Ah bon,
ce que je peux dire,
non,
ça passera du côté de chez moi, de Béziers, en fait, dans l'Hérault, à l'époque de la révolte des viticulteurs de 1907, voilà.
D'accord.
Ça sera autre chose, complètement autre chose, voilà.
Oui, et puis il fera moins froid.
Voilà.
Eh bien, écoutez, Alain, merci d'avoir été avec nous.
Écoutez, c'est moi qui remercie Radio Crapon et vous en particulier de m'avoir invité. Et puis, voilà, c'est un plaisir, entre parenthèses, pour les lecteurs. Pendant un an, l'an dernier, les journaux de la Haute-Loire et du groupe, enfin, les journaux du groupe La Montagne, en fait, avaient publié en feuilleton Les Rubans de la Vengeance, qui s'est terminé au mois de juin.
D'accord.
Et voilà, et donc, les personnes qui ont lu ça, ben, ils retrouveront peut-être ma manière d'écrire dans ce nouveau roman, voilà.
Eh bien, c'est ce qu'on espère. Hein. Et puis, on attend avec impatience, bien sûr, les autres qui vont arriver. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Puis, on a eu un petit peu de soleil dans le poste, parce qu'être au Taxar, très chantant, c'est toujours très agréable d'écouter les gens du Sud un peu.
Écoutez, moi, les accents, je les aime tous. Voilà. Et je dis souvent, quand on me dit vous avez un accent, je dis non, c'est vous qui en avez un pour moi.
Oui, exactement.
Voilà. Non, en tout cas, merci de votre gentillesse. C'est toujours très sympathique de parler avec vous.
Très bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Merci. Au revoir.
Bonne soirée, merci. Au revoir.
Au revoir. Voilà, Alain Delage, donc, qui était avec nous dans cette émission. Donc, je vous rappelle le titre qui s'intitule « L'étreinte de la bise ». Donc, cette émission, vous le savez, est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Alors, quand on a parlé du plateau de l'Aubrac, eh bien, on peut peut-être écouter Raphaël qui nous interprète « Le vent de l'hiver ».
C'était le temps d'une autre année, le temps des néons allumés, le temps des témoins des colombes, le temps de la vitesse et de l'ombre, le temps des lettres jetées au feu, le temps où on était heureux. C'était le temps des bords de mer, le temps des 15 pour des prévets. Je revois tes cheveux défaits dans la chambre d'hôtel tu jouais, et moi sur la banquette arrière je voyais le monde à l'envers. Vive le vent de l'hiver et la chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Doucement, doucement, je ne suis pas soigné. C'était le temps de la cantate, le temps où tu l'as joué pour moi. Vive le vent de l'hiver et la chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre. Les loups sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière dans le rétroviseur. J'étais sur les routes de Paris, nuit d'hiver, j'étais sur les
de chose moins.
Voilà, on termine cette émission avec un petit peu de folklore auvergnat et qui parle de l'Aubrac. C'est en occitan, Lou Mazuc. Pour terminer cette émission, je vous rappelle, on a reçu Alain Delage, l'étreinte de la bise, invité du jeudi que vous retrouverez. Je vous le rappelle, donc le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 2h30. Cet invité du jeudi est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac he'd spend like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown,